Bonsoir, bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bon début de semaine.
Hey, ça va bien toi?
Ça va très bien.
Belle journée de soleil aujourd'hui pour partir la semaine, alors c'est bon pour l'humeur ça.
C'est un peu frisquet, mais ça s'est réchauffé par la suite, mais je vais vous avouer qu'il y a de ça quelques semaines, je pense que ça fait 2-3 semaines, je pensais qu'on était vraiment là sur des airs d'aller pour avoir le printemps un peu plus hâtif, puis la dernière semaine est un peu plus raide, on va se le dire. Là, je regarde pour ce qui est des prochains jours, on est dans le plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, même plus 6, là, des possibilités de plus 6 pour ce qui est de vendredi. Fait que, bref, le printemps s'en vient, Maître Marc Bellemare.
Hey, la semaine passée, j'étais dans le bas du fleuve, jeudi notamment, à Rivière-du-Loup. Ça tombait à plein ciel. À partir de la Pocatière jusqu'à Rivière-du-Loup, là, on ne voyait rien, là, à peu près à 100 pieds en avant. Et alors, je me suis dit, bon, il y a de la neige, on va faire ce qu'il faut en fin de semaine. Alors, samedi matin, 9h, j'étais sur les plaines avec mes skis. Il n'y avait pas grand monde. Alors, je pensais qu'il y avait de la neige, que les pistes étaient bien balisées, tout ça. Alors, j'arrive là, il n'y a presque pas de neige, les pistes étaient glacées.
Ah ouais.
Et à un moment donné, il y a une pente qui est assez raide, là. J'ai pogné ça, mon homme, là. J'ai fait à peu près toutes les contorsions imaginables, mais je ne suis pas tombé. Puis je ne me suis pas fait mal, ce qui est un exploit en soi. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait une chute en ski de fond. Une chute en ski alpin, ça va pas pire parce que les pentes sont généralement assez bien enneigées. Puis
ouais.
C'est assez mou au sol. Mais une chute en ski de fond sur une neige durcie, tu peux vraiment te faire mal.
Ben, c'est comme de l'asphalte. Là.
Écoute, on était trois sur les plaines, c'est pas compliqué. Mais je me demande où va la neige. Parce que dans les grandes plaines, comme les plaines d'Abraham, dans les grands parcs, on a l'impression que la neige est balayée. Puis même si il y a beaucoup de neige au sol, sur le bord des autoroutes, ça ne veut pas dire qu'il y en a sur les parcours de ski de fond. Alors, ça a été mon expérience dimanche matin, samedi matin plutôt. Et là, je ne sais pas si... Bon, il y a neigé un petit peu dimanche. Peut-être que ça s'est amélioré, mais c'est toujours un peu trompeur les conditions quand tu pars de chez vous. Tu as l'impression d'avoir telle condition d'enneigement puis que tu les as pas, là.
Non, c'est ça. Puis les plaines d'Abraham, effectivement, on a toujours l'impression que c'est bien rempli de neige, mais avec le vent qu'il y a là, bien souvent, le vent est soufflé ailleurs, puis sur les plaines telles quelles, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'accumulation. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité internationale, sûrement, mais moi, je ne pense qu'à ça depuis quelques jours. Tu sais, j'ai toujours eu l'impression qu'on est à l'abri, puis que la violence n'est pas si présente dans nos vies. Puis avec raison, là, je veux dire, on est bien ici au Canada. Je regarde ce qui se passe en Russie, des gens qui assistaient à des spectacles, qui se sont fait tirer dessus par des terroristes. On parle quand même de la Russie, là, un endroit où vous ne pouvez pas aller à grand place sans être surveillé. Des gars qui sont russes à rentrer avec leur mitraillette puis à tuer plus d'une centaine de personnes. Je pense qu'on est rendu, le bilan est rendu à 130 quelques morts. Là. C'est d'une tristesse. Puis les vidéos, parce qu'on est à l'ère des téléphones cellulaires, les vidéos qui ont été filmées pendant la tuerie, c'est d'une tristesse voir ça. La seule consolation qu'on peut avoir, Maître Marc Bellemare, puis je sais pas vous si vous êtes tough on crime, en fait je pense que oui, mais c'est que ces gars-là vont être jugés en Russie et ne seront pas jugés au Québec ou encore au Canada. T'sais, un gars comme celui qui a fait l'attentat à la mosquée de Québec. Là.
Bissonnette.
Un gars comme Bissonnette, s'il avait fait la même affaire en Russie, il n'aurait jamais revu le soleil. Ben, je pense que les terroristes là-bas ne reverront jamais le soleil, effectivement, là, parce qu'ils seront pris en charge en Russie puis ils seront jugés en Russie. Là.
Oui, effectivement. Et ben, c'est sûr que ces terroristes-là, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir le plus de notoriété possible, hein, le plus de répercussions. Fait qu'ils vont s'attaquer à des pays populeux avec des villes populeuses, comme là, ça s'est passé à quelques kilomètres de Moscou. Alors, c'est sûr que ça a des répercussions importantes. Et puis, c'est pour essayer de contester la présence des Russes en Tchétchénie, puis dans différentes parties du globe où... les Russes sont assez opprimants. C'est pas un peuple qui est facile. L'armée russe n'est pas une armée très conciliante. Et l'occupation russe un peu partout dans le monde crée beaucoup de dommages, mais c'est sûr que ça ne justifie pas les attentats terroristes. Mais tu as raison sur le fait que s'ils sont poignés, là, puis s'ils sont les procès en Russie sont assez expéditifs, les prisons sont assez bien assez bien pourvu en termes de simplicité. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose pour les prisonniers là-bas. On pourrait peut-être faire un traité de libre-échange avec Poutine pour leur envoyer une couple de prisonniers. Des Bernardo là, du Canada là, qu'on garde ici à 250-300 piastres par jour pour les loger. On pourrait peut-être les envoyer en Russie, là. Ça ferait du bien. Et voilà. Alors, c'est une proposition. Si on essaie de recouvrer nos relations internationales avec lui, on pourrait le faire sur une base carcérale. Parce que je vais te dire que nos prisons ici sont plutôt confortables par rapport aux prisons russes.
Ah, ben oui, effectivement. Puis là-dessus, je vous suis. Mais j'ai l'impression qu'on est très, très soft on crime. Puis en fin de semaine, j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est un shérif d'un comté en Floride. Je vais vous le faire entendre avec mon cellulaire. On s'entend que c'est pas la grosse affaire, là. J'aurais aimé vous sortir l'extrait avant. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que il y a beaucoup d'invasions de domicile. Puis il est un peu tanné de ça. Le comté, c'est le comté de Milton, en Floride. Je vous fais entendre ça à
Ouais.
l'instant.
I don't know which homeowner shot at him. I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking in your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually.
En fait, ce qu'il dit, le shérif, c'est qu'il dit, si quelqu'un entre par effraction dans votre maison, vous êtes plus que bienvenu pour tirer. En fait, nous préférons que vous fassiez cela. On en est rendu là. Ils ont tellement de problèmes d'invasion de domicile que le shérif dit, savez-vous quoi? Quand quelqu'un rentre chez vous là, pour vous voler ou pour vous faire du mal, tirez. On préfère que vous fassiez ça.
Oui, mais on peut parler de légitime défense. Non, non, mais c'est. Mais il y a déjà eu des cas au Canada où des commerçants, par exemple, face à un cambrioleur avec un fusil, ont eu de la misère à obtenir un verdict d'acquittement sur la base de la légitime défense. Écoute, on est au Canada, là. Si tu es condamné pour un crime ici, là, avec les lois qu'on a, les chartes qu'on a, les tribunaux qu'on a, c'est parce que vraiment tu es coupable à 100 000 à l'heure, là. Parce que même dans le cas d'une invasion de domicile, on pourrait peut-être te reprocher d'avoir utilisé une force disproportionnée par rapport à l'attaque. C'est sûr que si tu rentres dans la maison puis que le gars n'est pas armé, et tu rentres chez vous puis tu vois un intrus puis il n'est pas armé, c'est différent d'un intrus qui est armé, mais en même temps, tu ne sais pas s'il est armé ou pas. Il y a bien des chances qu'il le soit. Il n'y a pas d'affaire chez vous, effectivement. Moi, je ne me poserai pas la question longtemps. Je vais te dire, je prendrai tout ce qui me tombe sur la main, puis j'essaierai de le sortir, puis de me défendre, au moins de le neutraliser, même si c'est à l'intérieur du domicile. Mais je
Parce
pense que tout est pas mal permis s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, puis on commencera pas à se demander, veux-tu juste avoir un bijou, ou veux-tu juste avoir un radio ou un système de son? Ben non,
Ouais.
si tu veux m'égorger, là, c'est quoi que tu veux, là? On n'a pas bien ben le temps de jaser.
Oh, on vit une époque particulière, mais des fois j'ai l'impression qu'on se mettrait peut-être plus dans le trouble si on faisait quelque chose durant le vol, puis si on faisait mal aux pauvres petits voleurs qui rentrent dans la maison. On dirait que c'est les premières choses qui me passeraient en tête. Je me souviens d'un policier à Toronto il y a de ça quelques semaines qui avait dit, ben savez-vous quoi, t'sais, si vous faites si y a un voleur de voiture qui arrive près de vous, laissez-lui votre voiture. C'est mieux comme ça, t'sais, donnez-lui les clés. On est rendu sur quelle planète, là? Je
Non,
comprends
mais ce
pas.
qu'on dit aux commerçants, c'est ça, hein? Ce qu'on dit aux commerçants, c'est ça. Si quelqu'un rentre, ou les caissières d'un banque, là,
Oui.
quelqu'un rentre, puis va avoir du cash, ou va avoir quelque chose, ou va avoir un relevé informatique, ou va avoir un ordinateur, t'es mieux d'y donner que de résister, parce que si tu résistes, tu peux te retrouver avec une balle dans la tête. C'est sûr que si c'est des biens matériels, moi, je serais peut-être porté à laisser aller, comprends-tu? Mais tu sais, tu as 3 secondes. On est à radio, là, puis on a tout le temps de jaser de ça. Ça va bien, nous autres, on est confortable, là. Chacun dans nos studios, là, puis on regarde aller ça. Mais quand ça t'arrive pour le vrai, là, moi, j'ai des clients qui ont été vraiment agressés, là. Je vais te dire une affaire. Tu t'y attends pas, c'est pas écrit dans le ciel, le matin, en te levant, tu vas te faire agresser à 10h33 le matin. Alors, t'as pas grand temps pour réfléchir, puis c'est sûr que si c'est juste des biens matériels, quelqu'un qui veut voler quelque chose à l'extérieur, puis que ta sécurité corporelle, ta vie n'est pas menacée. Je serais peut-être porté à laisser aller les biens pour garantir ma sécurité, parce que juste un coup de poignard ou un coup de poing sur la gueule, des fois, ça peut avoir des impacts importants en termes de séquelles.
Mais vous, vous avez plus d'expérience que moi, là. Quand vous étiez jeune, ça existait-tu, ce genre de vocabulaire-là, des invasions de domicile, des gens qui volaient les voitures de cette façon-là, des policiers qui sortaient dans les médias en leur disant « Ben, regardez, s'ils ont besoin des clés, donnez-leur les clés, ne vous en mêlez pas. » On dirait qu'on vit dans un air où on n'a plus besoin de se défendre, c'est pas grave, les assurances vont être là. Puis s'ils rentrent dans ta maison, ben garde, libre à toi de lui laisser une chambre au pire. Là. C'est gênant des fois. On dirait que les voleurs n'ont plus à craindre de rentrer dans les maisons. Les voleurs n'ont plus à craindre de voler une voiture. Ils ont plus de conséquences. Je parlais avec un commerçant en fin de semaine, Firefield, pour les gens qui connaissent l'excellent Firefield sur la Grande Allée. T'sais. Il y a un gars qui rentre régulièrement dans les commerces sur la Grande Allée, consomme, fait semblant qu'il va fumer une cigarette dehors, puis sac son camp sans payer son bill. Puis à la taverne à Philippe, ce que Philippe dit, c'est que lui, on lui a volé à peu près entre 300 et 400 $. Il a réussi à identifier l'individu. Il a donné le nom de l'individu, il a donné l'adresse de l'individu, il a donné la job où il travaille aux policiers. Puis ça fait plus d'un an. Puis ils n'ont toujours pas de nouvelles de la part de la police. Et quand il a appelé, la police, il y a de ça quelques semaines, ben le policier lui a dit, ben vous savez, là, les vols en dessous de 50 000 $, on n'a pas nécessairement le temps de s'en occuper ces temps-ci. Ben, des vols en dessous de 50 000 $, ça veut dire que pour un voleur wise, là, il peut faire des petits larcins comme ça sans jamais être inquiété par la police.
Oui, c'est ça. Il ne s'occupe pas vraiment des cas qu'il considère des cas simples ou... peu important en termes, tu sais, à moins d'avoir la démonstration qu'il a fait ça dans une vingtaine de commerces à Québec, là, d'avoir des photos, souvent, ils s'en occuperont pas. Moi, je me souviens, il y a à peu près une dizaine d'années, Yannick, là, je recevais à chaque année, à Noël, une lettre. Ça faisait une dizaine d'années que je recevais ça, une lettre d'un individu qui me demandait de l'argent pour faire des paniers de Noël. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de garder ces lettres-là pendant 3 ans. J'ai appelé la police de Québec. Ils sont venus chez nous. Je leur ai donné les lettres. Je leur ai dit que c'était de la fraude. Ils ont pris ça en note. J'ai jamais eu de nouvelles. Ça fait 10 ans de ça. Alors, tu sais, on a l'impression souvent qu'ils ne s'occupent pas de ça, à moins que ta sécurité corporelle ou psychologique soit en jeu. Généralement, ils ne bougeront pas. Puis, il n'y a rien comme tel de formel qui oblige la police à faire enquête puis à prendre au sérieux telle ou telle plainte. Ils ont une discrétion, puis en même temps, tu n'as même pas accès au rapport de police, tu n'as même pas accès au dossier d'enquête, parce que c'est tout le temps confidentiel. Tu peux avoir accès à ta propre déposition, mais tu n'as pas accès aux dépositions des autres, aux filatures, aux rapports d'enquête qui vont être faits au DPCP ou qui ne seront pas faits auprès du DPCP pour justifier des accusations criminelles. Alors, si les jugements de cour sont publics et motivés, puis on a le détail de tout ce que le juge a pensé et pourquoi il en arrive à telle ou telle conclusion, si les procès sont publics, du côté de la police et du DPCP, c'est le secret total. On n'a aucun droit d'avoir accès à des informations au sein des corps policiers pour savoir de quelle manière ils ont donné suite à telle ou telle plainte, par exemple. Alors, c'est malheureux, mais en même temps, on dit qu'il faut protéger le secret de l'enquête. Il faut éviter que le citoyen se mette à enquêter lui aussi puis qu'il brouille les pistes. C'est justifié qu'il y ait une certaine confidentialité. Mais il me semble qu'après 5 ans, par exemple, ou 10 ans, on devrait avoir accès au dossier complet.
Ben oui.
Parce qu'ils nous disent l'enquête se poursuit quand ça fait, tu sais, comme dans Cédrica, l'enquête se poursuit, là, 2007, là. J'ai des petits doutes, là.
Ah, c'est
l'enquête
clair.
Se poursuit, c'est peut-être plutôt pour cacher le fait qu'il n'ait pas rencontré tel ou tel témoin ou qu'il ait bâclé telle ou telle entrevue ou telle enquête dans tel ou tel dossier. Alors, faut pas que ça devienne non plus un prétexte pour que les policiers cachent leur incompétence.
Avant, j'étais beaucoup du côté des policiers quand les policiers disaient « Laissez-nous faire notre travail, ne diffusez pas les photos de l'individu sur les réseaux sociaux. » Puis maintenant, on dirait que je participe à ça. Quand il y a un salopard qui se fait prendre à voler quelque chose, puis que c'est clair et net qu'il a volé ce qu'il avait volé, parce qu'on a les images vidéo et tout ça, je participe toujours à cette enquête citoyenne-là. T'sais. Identifiez-moi ce salopard. salopards-là. Si jamais son conjoint ou sa conjointe ou son père ou sa mère tombe là-dessus, il va avoir la honte de sa vie parce que cette personne-là ne sera jamais probablement inquiétée par les policiers puisque c'est un vol qui a moins de 1000 $. Mais c'est Chum, par exemple. C'est Chum à job qui voit T-Paul qui est en train de faire un vol dans un restaurant, voler l'argent de la caissière ou partir avec le pot de type. Ben, ses collègues de travail vont avoir vu T-Paul. Puis T-Paul va en entendre parler longtemps que c'est un voleur, tu sais.
Oui, oui, bien, c'est faire des mauvais coups à cachette dans le coin quand il fait noir, ça va bien, mais quand tu allumes le spot, des fois, c'est plus gênant.
Oui, effectivement. Mais avant, je ne participais pas parce que je disais, bien, tu sais, les policiers ne veulent pas qu'on nuise à l'enquête et tout ça, mais tu sais, quand on regarde ça, les policiers, ils en font pratiquement plus d'enquête pour ces genres d'affaires-là. Ils vont dire, appelez votre compagnie d'assurance. Ouais, mais en bout de ligne, c'est qui va payer plus cher d'assurance? C'est nous, les caves, qui allons payer plus cher d'assurance parce que les policiers font plus peur aux voleurs présentement. Hey, Maître Bellemare, question de Julie. C'est une question de la semaine dernière. Julie nous dit qu'elle n'a plus la chance de vous voir au Canadien de Montréal. Elle avait des billets, deux rangées derrière vous. Avez-vous encore vos billets?
Bien, j'avais arrêté d'y aller dans le temps de la pandémie parce qu'il n'y avait plus de game.
Ben, elle dit que ça fait deux ans que vous avez pointé.
Ça a bien tombé parce qu'on avait une équipe, bien qu'elle soit rendue en finale, je pense que c'était en 2021. Ouais. En ligue qu'on s'est rendu en 2021, 2022, qu'on s'est rendu en finale.
C'est pendant la pandémie.
Qu'on s'est fait rosser en quatre là, dans la finale, puis on ne sait pas trop comment est-ce qu'on s'est rendu là. Mais non, j'avais arrêté d'y aller, j'avais arrêté d'acheter mes billets de saison. Et écoute, il y a eu un temps où, moi, quand j'ai commencé, c'était en 2004, j'ai eu des billets de saison au Centre Bell entre 2004 et 2020 à peu près, pendant une quinzaine d'années. En 2004, je partais de Québec une game sur semaine. Je partais à 3h30, 4h. J'arrivais à mon match à 7h. Puis à 10 heures, autour de 10 heures, je quittais Montréal, puis j'étais dans mon lit à minuit et demi. Fait que c'était pas pire, tu sais. Ça me permettait quand même de travailler le lendemain matin, d'être pas trop poqué. Mais les dernières années, là, 2019-2020, je te jure, il fallait que je parte à 2 heures l'après-midi. Parce qu'à partir de Saint-Hyacinthe, là, quand j'arrivais là à 4 heures et quart, là, la vitesse baisse à peu près à 70 km. Là, tu sais, tu peux plus rouler, il y a tellement de monde. Même si c'est en fin d'après-midi, puis tu rentres à Montréal, que c'était devenu compliqué et ça occupait quasiment la journée complète du match. Je travaillais le matin, mais l'après-midi, je ne travaillais pas, j'étais sur la route. Alors, ça devenait très compliqué. Puis aujourd'hui, c'est encore pire, je suis convaincu, moi, que si tu veux voir une game sur semaine, un mardi ou un jeudi au Centre Bell, il va falloir quasiment que tu partes après dîner. Si tu veux arriver à l'heure, puis si tu veux avoir un parking, puis si tu veux ci, puis si tu veux ça. Alors, c'est ça, c'est le trafic qui est devenu compliqué. Il y a de plus en plus de trafic. En l'espace de 20 ans, c'est devenu extrêmement compliqué de rentrer à Montréal. Et sur place, là, tu as toutes sortes de problèmes, tu as toutes sortes de cônes oranges, des travaux tout le temps, ça finit plus. Là, ça, c'est la mode Valérie Plante, là, la mairesse de Montréal qui a les autos en horreur et qui veut absolument qu'il n'y en ait plus dans sa ville. Alors, ça fonctionne bien parce que les automobilistes sont tellement écœurés qu'ils n'y vont plus. Alors, à moins de rentrer à Montréal en train, ou en autobus, mais en autobus, c'est pas garanti non plus. Normalement, tu peux le faire en train si les horaires fonctionnent. Pour l'aller, ça va. Pour le retour, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement de train. Il n'y a pas de train en fin de journée de Montréal-Québec. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir des billets de saison. Puis ça a assez bien tombé parce qu'à partir de 2022, on a vraiment une équipe de cul là, à Montréal. Là. Non, mais c'est tellement poche. Là. Hier, ils ont gagné contre le Kraken. Là,
oui.
Le Kraken, c'est ils portent bien leur nom, c'est pas mal craqué, là. Alors, mais écoute, il y a tellement pas de qualité de jeu, là. Tu vas vraiment voir l'équipe adverse, là. Si tu vas voir McDavid, c'est le fun, mais tu vas pas voir McDavid en pensant que le Canadien va battre McDavid, là. Ouais. Tu vas voir Crosby, tu vas voir les joueurs importants, Brad Marchand, tout ça. C'est le fun, mais tu vas pas voir le Canadien, tu vas voir l'autre équipe. Puis moi, ça me tente moins. Même à la TV, j'ai de la misère à passer au travers.
Ah, OK. Ah, ouais, ben, moi, je l'écoute plus à la télé, mais pour avoir fait les remparts puis le Canadien dans la dernière année, je peux vous dire qu'il y a plus de... Curieusement, il y a plus d'ambiance aux remparts de Québec. On sent peut-être un peu plus chez nous. Tout ce qui est. Tu sais, on est ensemble, là, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui déteste les Anglais, mais je veux dire, tu sais, tout le monde parle français, tout le monde s'amuse, il n'y a pas de chicane, il n'y a jamais de bagarre aux remparts. Puis mes gars, c'est la même affaire. Mes gars, je les ai amenés aux Canadiens. Ils ont aimé ça pour l'expérience de voir un club de hockey de la Ligue nationale, mais je leur dis, vous avez le choix entre les Remparts et les Canadiens de Montréal. Ils vont choisir les Remparts. Parce qu'ils sont chez eux, parce que les Remparts sont peut-être un peu plus bâtis à leur image que le Canadien de Montréal. Mais on a tout un show à Québec. On est chanceux. On n'a pas un gros club cette année, on va se le dire, là. On était à Memorial l'an passé. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce trip-là qu'on avait avec les Remparts qui gagnent, qui peuvent peut-être aspirer aux plus grands honneurs, il va revenir. Mais moi, mes enfants, le show est à Québec. Je suis un peu d'accord avec eux autres. À Montréal, c'est un peu moins le show que c'était avant, là.
Ben, junior majeur, ça peut prendre une couple d'années, ça peut se revirer de bord, puis tu peux avoir une équipe qui va se rendre à la Coupe Memorial, puis l'année d'avant, ils n'ont même pas fait les séries à cause de l'âge des joueurs, parce que c'est un range d'âge qui est quand même assez limité pour accéder et pour en sortir. Mais Montréal, j'en parlais avec mon fils hier, on écoutait un petit peu là, les matchs en fin de journée dimanche, puis mon fils qui a joué au hockey pendant une quinzaine d'années de sa vie, puis il disait: quand est-ce que tu penses que le Canadien va devenir une équipe respectée dans la Ligue nationale? Puis lui, il me disait 6-7 ans. Il dit, d'après moi, ça va prendre 6-7 ans. Puis d'après moi, Caulfield puis Suzuki vont être rendus dans la trentaine quand ça va se passer. Parce qu'ils n'ont tellement pas fait de bons choix au repêchage. Ils ont tellement le Galchenyuk. Puis, tu sais, c'est des choix au repêchage qui n'ont jamais abouti, qui n'ont jamais donné de résultats. Et moi, je pense que la reconstruction, ça va prendre une dizaine d'années parce qu'il y a... Honnêtement, là, il n'y a aucun signe réel d'amélioration de l'équipe actuellement, puis il n'y a rien qui nous dit que dans les 3-4 prochaines années, il va vraiment y avoir des changements. Ils n'ont pas fait d'échanges, ils gardent toujours la même gang. C'est bon. Moi, je pense que ça va être long avant qu'on ait un show qui a de l'allure avec le Canadien de Montréal.
Ben, je vais souhaiter que vous ayez tort, parce que moi, le Canadien, c'est mon club depuis que les Nordiques sont partis. Puis j'écoute pas mal chaque match. Slavkovski est tout un joueur, là, encore très, très jeune. Puis il y a de bons éléments qui sont déjà en place. Vous avez parlé de Cole Caulfield, vous avez parlé de Nick Suzuki. Nick Suzuki qui aurait, mettons, sur 82 matchs, pourrait avoir un genre de 80 points. Là. C'est quand même bon pour un jeune de son âge. Pour ce qui est des autres, ben, à défense, on a Caden Goulet qui est tout un défenseur. J'avais Marcoux dans la tête.
Matheson,
qui est un excellent joueur offensif, défenseur offensif. Logan Mailloux, voilà. C'est Logan Mailloux qui s'en vient l'année prochaine. Peut-être 5-6 ans, ouais, je suis d'accord avec votre fils. Effectivement, 5-6 ans, ça a bien du bon sens. Mais le show actuellement, il est au rempart. L'animation est incroyable. Maître Bellemare, on fait un petit quiz normes du travail, harcèlement en milieu de travail. C'est un quiz qu'on peut retrouver sur Éducaloi. Moi, je ne l'ai pas fait encore parce que je voulais pas voir le résultat. Fait que je vais le faire avec vous, OK?
Oui, on va y donc.
Maître Bellemare, lorsque vous commencez un nouvel emploi, votre employeur peut vous payer 16 jours après votre premier jour de travail. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je pense que c'est vrai.
Moi aussi, je dirais vrai. C'est la bonne réponse. Votre employeur a un mois pour vous remettre votre première paye après ta première journée de travail. Par la suite, il doit vous payer au maximum tous les 16 jours. C'est souvent chaque semaine et à toutes les 2 semaines. Ensuite...
Oui, veut dire qu'il ne peut pas attendre 3 mois avant de te payer parce que... Déjà que tu commences une nouvelle job, puis les factures commencent à rentrer pareil. Fait que c'est normal que la loi prévoit un certain délai avant que pour que l'employeur te paye, mais à un moment donné, c'est pas éternel non plus.
Je parlais avec un jeune courtier immobilier qui vient de commencer, il a terminé son cours là 3 mois, Maître Bellemare, puis il a eu sa première inscription. Donc, exemple, vous l'appelez, vous dites « Serge, je veux que tu vendes ma maison. » Ben Serge se déplace, vous fait remplir les papiers, puis ça lui fait une inscription. Et là, je lui dis « Ben ça va te faire du bien, tu sais, ça fait quand même quelques semaines que tu es sorti de l'école et tout ça. » Il me dit « Je vais être juste payé lorsque ce sera notarié dans 4 mois. » Donc, ah ouais? Lui, là, il est 5-6 mois sans paye. Là. Fait, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être 5-6 mois sans paye, mais c'est peut-être le malheur au départ des courtiers immobiliers, mais par la suite, ça, il se place relativement bien. Okay. Maître Bellemare, vous avez le droit de travailler dans le commerce de vos parents, peu importe votre âge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Ben, si c'est le commerce de tes parents, je dirais que c'est vrai parce que, en principe, si tes parents t'embauchent, ça implique que tu es autorisé à travailler en bas de 14 ans. Parce qu'en principe, il faut que tu aies 14 ans pour travailler. Tu sais, si, normalement, en bas de ça, il faut que tu aies l'autorisation de tes parents. Mais à partir de l'âge de 14 ans, tu peux travailler à peu près n'importe où. Maintenant, c'est encadré parce qu'il y a eu un projet de loi il y a quelques années qui a encadré l'emploi des mineurs. Mais si c'est une entreprise familiale de moins de 10 employés, un restaurant, par exemple, ou une usine, une petite usine artisanale, familiale, ben, tu vas pouvoir travailler même si tu as en bas de 14 ans. Maintenant, je vais te raconter une histoire d'un couple de parents dans la région de Nicolette qui embauchait dans un garage leur fils de 13 ans. Il y a eu un accident de travail. Sérieux, très grave, une amputation. Et je peux te dire une chose, les parents ne dorment plus depuis ce temps-là. Fait que c'est sûr que tu peux engager des jeunes. Puis des fois, tu as des jeunes de 13 ans puis de 12 ans qui ont l'air des adultes. Hein. Tu as des 6 pieds là-dedans puis des 180 livres. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y a la maturité nécessairement pour travailler. Fait que ça prend une bonne formation puis une bonne surveillance. Parce qu'on surestime souvent le jugement, le discernement le souci par rapport à la sécurité chez les mineurs. Mais des fois, ils veulent être bons, puis ils veulent performer, puis ils veulent être les meilleurs, puis à un moment donné, whoop, il va se passer la main dans le scie, là, tu sais, si c'est une boucherie ou s'il y a des équipements dangereux.
Ça dépend toujours
du
travail.
Mais là, il y a des scies, puis il y a des drills là-dedans, puis ça peut causer des dommages importants. Fait que oui, c'est possible. Vous avez un petit chop-up de bois, vous pouvez engager votre fils de 12 ans, mais assurez-vous qu'il est vraiment conscient des risques et comme parent, vous avez une double responsabilité parce que vous êtes employeur aussi.
Mais nos enfants sont-ils plus bébés que nous on l'était à leur âge? Moi, je passais le Journal de Québec puis je passais le soleil à 11 ans. Moi, j'avais ma run, j'avais à peu près une soixantaine de résidences. Je partais avec mon petit express puis j'allais porter mon Journal du Québec, mon Journal de Québec puis mon Journal Le Soleil. Je regarde mon gars d'11 ans. Des fois, je dis, là, Joshua, il faudrait que tu fasses telle ou telle tâche. Il y a bien de la difficulté. C'est peut-être moi qui ai erré en tant que parent à certains égards, mais j'ai l'impression que nos bébés d'aujourd'hui sont plus bébés que nous autres, on l'était. On était un peu plus autonomes, peut-être un peu plus laissés à nous-mêmes aussi, ce qui faisait en sorte que, comme on était laissés à nous-mêmes, on développait une meilleure autonomie. Mais aujourd'hui, un enfant de 11 ans, rien à voir avec un enfant de 11 ans à votre époque, Maître Bellemare, là.
Là, oui, ils sont surprotégés aujourd'hui, c'est sûr. Mais les familles sont plus petites aussi. Il y a beaucoup de familles qui ont un enfant ou deux. Quand tu étais 4-5 dans la maison, là, il y a 30 ans, là, mais là, il y avait plus de lousse parce que les parents n'étaient pas capables de surveiller le moindre déplacement des enfants. Puis les enfants étaient plus autonomes, puis ils voulaient quitter la maison à 16-17 ans. Les enfants, ils avaient juste le goût de se trouver une job puis d'avoir leur propre auto, leur propre logement. Aujourd'hui, ça colle, puis ils veulent pas partir. Non, c'est sûr qu'il y a un changement culturel important chez les enfants aujourd'hui. Mais moi, c'est par rapport aux accidents que j'en suis, parce que j'ai déjà rédigé un livre avec une firme qui s'appelle Catara, qui est à Thetford Mines, C-A-T-T-A-R-A, qui est une association qui défend les accidentés du travail. Et ce livre-là, c'était précisément pour parler des accidents chez les jeunes. Puis j'avais donné des conférences dans certaines polyvalentes dans la région de Thetford qui s'adressaient à des ados qui travaillaient. Parce qu'aujourd'hui, ils travaillent. Puis je les sensibilisais à leurs droits au niveau des accidents. Ils soient mal dans le dos, soient mal à l'épaule, une amputation, une chute. Écoute, c'est sûr que dans le cerveau d'un enfant de 13 ans, tu n'as pas la même vigilance, la même expérience de vie, les mêmes précautions. Ils prennent des risques. Ils le font en voiture aussi. Tu sais, les jeunes de 17 ans en auto, là, ils sont téméraires, ils vont vite, ils pensent qu'ils sont invincibles, ils ont pas peur du danger, puis c'est propre à l'adolescence de pas avoir peur du danger. Tu penses que ça t'arrivera jamais. Quand t'es plus vieux, tu y penses un petit peu plus. Des fois, ça peut faire la différence entre être blessé puis pas au travail. C'est juste que les parents qui engagent des enfants de 12-13 ans, il faut qu'ils soient particulièrement vigilants. Puis, ça ne veut pas dire de le suivre partout, mais au moins d'y expliquer les dangers, puis d'avoir des équipements sécuritaires, de s'assurer que tous les équipements dangereux auxquels l'ado a accès soient hautement sécuritaires. C'est la première étape. La deuxième, c'est bien sûr la pédagogie et la formation.
Toujours sur le site d'Éducaloi, Maître Bellemare, c'est notre quiz normes du travail et harcèlement en milieu de travail. J'ai une question pour vous. Vous êtes engagé pour une journée d'essai comme plongeur dans un restaurant. Ça se passe pas bien avec votre patron, puis celui-ci vous annonce qu'il vous garde pas. Est-ce qu'il doit, oui ou non, payer votre journée? Moi, je pense qu'il doit payer la journée quand même.
Oui, parce que tu as travaillé, donc oui, c'est... Tu ne peux pas dire on t'a juste mis à l'essai parce que tu as quand même fourni une prestation de travail. Tu as le droit d'être payé durant ta période d'essai. C'est des heures durant lesquelles tu as travaillé, donc tu as le droit d'être payé au tarif habituel, même si tu n'es pas embauché, puis même si tu ne seras jamais, parce que tu t'es présenté au travail puis tu as fourni une prestation.
Question numéro 4. Vous êtes protégé contre le harcèlement en milieu de travail, même si vous travaillez à temps partiel? Je pense que oui, ça, c'est une évidence.
Ben, j'espère bien. Ouais. À un moment donné, là, tu te présentes au travail, puis même quand même que tu fais 5 heures de travail pour un patron, même si c'est juste les fins de semaine, le harcèlement en milieu de travail, il te traite de cabochon devant tout le monde, il te pogne une fesse, il te bouscule, il t'insulte, t'as tombé à l'époque matin, qu'est-ce que t'as fait de ta nuit, puis tout ça, puis... L'écœurement en milieu de travail, c'est inacceptable, peu importe le nombre d'heures que tu fais, que tu sois à temps plein, à temps partiel, que ce soit un emploi temporaire, saisonnier ou pas, t'es protégé contre le harcèlement. Puis si jamais tu es victime de harcèlement, tu peux faire une plainte à la Commission des normes santé-sécurité du travail, la CNSST. Puis si tu es blessé en lien avec du harcèlement psychologique ou physique, tu peux réclamer comme n'importe quel accidenté du travail. C'est pas un petit peu plus compliqué à prouver, par exemple, parce que l'expérience que j'ai dans ces dossiers-là, Yannick, c'est que les harceleurs sont des gens, en général, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cabochons, là, mais les harceleurs sont en général des gens supérieurement intelligents qui vont mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas se faire pogner. Ils vont éviter les caméras, ils vont éviter les audios, ils vont procéder au harcèlement quand ils sont tout seuls avec toi, il n'y aura pas de témoins, ou bien non, s'il y a des témoins, ils vont s'assurer que les témoins sont assez pissous que jamais ils vont aller témoigner contre eux autres. Alors, c'est facile à dire. J'ai été harcelé, puis j'ai le droit d'avoir des compensations ou d'être intégré dans mon emploi dont on m'a congédié injustement. Mais la preuve devant une cour de justice, là, attache ta tuque, ça prend des bons éléments. Puis si tu es capable, comme personne harcelée, de ramasser des photos, un journal de bord, à tous les matins, tu arrives avec ton journal de bord, tu prends des notes, il a fait ci, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça, tel endroit, ça va te donner de la crédibilité pour pouvoir prouver que tu as été victime de harcèlement. Parce que si tu attends 2 ans, puis au bout de 2 ans, tu te dis « Ah, ben là, j'ai été harcelé, puis là, à quelle journée, quelle heure, de quelle manière, par quelle personne, à quel endroit, tu risques de te perdre dans tes souvenirs. »
Question numéro 5. Un collègue de travail ne commet pas de harcèlement s'il vous niaise sans avoir l'intention de vous blesser. Oh, ça, je pense que c'est faux, ça.
Oui, c'est ça. Ben, l'intention de la personne n'a aucune espèce d'importance. C'est sûr que si c'est intentionnel, puis des fois, il y a des harceleurs qui sont tellement sans dessein qu'ils pensent eux autres que c'est drôle, parce que, tu sais, toujours rire d'une personne, rire de ses performances, rire de ses caractéristiques physiques, rire de ses habillements, rire de ses manières de travailler, ses manières de parler, les activités personnelles, la personne avec qui elle vit, son orientation sexuelle, peu importe. Rire de quelqu'un, dans certains milieux de travail, un peu plus chauvin, là, un peu plus matériel, dans les usines, il y a des cultures, des fois, d'harcèlement, une espèce d'initiation, il y a un petit nouveau, on va l'écœurer. Des jobs d'été aussi, souvent, il y a des étudiants qui arrivent dans des usines, ils vont se faire écœurer, plus que la moyenne, parce que c'est temporaire, on sait qu'il va partir au mois d'août, au mois de septembre. Alors, l'intention malveillante, sadique, de nuire et de briser quelqu'un n'a pas d'importance. Si ce sont des gestes abusifs, humiliants, blessants, des gestes hostiles, répétés, si ça rend ton milieu de travail néfaste, tu as le droit de présenter une plainte, et je le répète, c'est à la CNSST qu'on doit présenter ces plaintes-là. C'est la CNSST, celle qui s'occupe des accidentés du travail, Il s'occupe aussi de réprimer le harcèlement et de faire en sorte que la personne harcelée puisse obtenir un dédommagement ou des correctifs dans le cas où son emploi aurait été affecté.
Pour question numéro 6, cela est facile. La réponse est assez facile. Une personne vous touche les fesses et vous force à l'embrasser au travail. Ce seul geste est du harcèlement au travail. La réponse est vraie.
Ben là, c'est pire que pire. Là. Ça, c'est une question qui est assez facile à répondre. Se faire toucher les fesses, recevoir des compliments déplacés sont des exemples. Les regards aussi. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est une question de crédibilité. Moi, je reçois des gens, des fois, ici, qui viennent me voir en consultation au bureau, puis qui me racontent des choses, puis j'écoute la personne, puis je me dis, si je suis à la place du juge, est-ce que je la crois? C'est une question de spontanéité, question de la façon dont la personne se présente. Est-ce qu'elle a des notes? Est-ce qu'elle a des souvenirs précis? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'il y a de l'émotion dans ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle en a parlé à son médecin? Est-ce qu'elle a un psychologue? Si elle a un psychologue, on fait sortir les notes cliniques pour voir ce qu'elle a dit au psychologue, parce que ça peut nous aider à reconstituer l'histoire. Mais c'est sûr que quand tu es rendu, que c'est des compliments déplacés, toucher les fesses, là, on est rendu dans... C'est plus que du harcèlement au travail, là. C'est même des agressions criminelles qui justifient non seulement qu'il y a une plainte qui soit logée contre l'employeur à la CNESST, mais aussi qu'il y a une plainte à la police, parce que là, ça devient une agression sexuelle. Le moindre toucher non consenti constitue une agression sexuelle au sens du code criminel.
Question numéro 7. Vous êtes protégé contre le harcèlement au travail uniquement lorsqu'il est commis par vos collègues?
Non, pas nécessairement. Ça peut être, par exemple, une clientèle. Si, par exemple, moi, j'ai déjà vu un cas où la personne était harcelée par des clients. Mettons qu'une personne s'occupe de l'accueil dans un bureau et il y a des clients qui la menacent, il y a des clients qui l'harcèlent, des appels téléphoniques incessants, cette personne-là peut se retrouver sur la CNSST comme accidentée du travail, même si c'est un tiers qui a commis le crime ou qui a commis le harcèlement. Et je te dirais plus que ça, si tu es victime, dans le cadre de ton travail, d'un client insatisfait ou de personnes qui ne sont pas nécessairement des co-employés ou ton supérieur, tu as un recours civil contre cette personne-là. Tu n'as pas de recours civil contre ton employeur qui t'harcèle, mais tu as un recours civil, c'est-à-dire devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure pour obtenir un dédommagement qui irait au-delà de ce que la CSST paye. Mais si c'est un tiers, tu peux poursuivre le tiers qui t'a harcelé. En plus d'obtenir ta CNSST, tu as un recours pour faire condamner un tiers qui ne serait pas ton employeur et qui t'aurait causé un dommage dans le cours de tes fonctions professionnelles.
On va sauter la question numéro 7, Maître Bellemare. Question numéro 8. Votre employeur est obligé d'avoir une politique de prévention du harcèlement et du traitement des plaintes. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne information, ça, à avoir. Est-ce que, oui ou non, notre employeur est obligé d'avoir une politique de prévention du harcèlement et du traitement
oui,
des plaintes?
Il est obligé d'avoir une politique de prévention. Ton employeur doit avoir une politique et il doit te laisser la consulter. La politique peut identifier des comportements qui sont considérés comme du harcèlement. Honnêtement, je pense qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à ça, sauf les gens qui sont harcelés. Si tu travailles dans une entreprise d'une certaine importance puis tu es harcelé, à ce moment-là, tu peux demander à l'employeur de donner une copie de la politique qu'il a parce qu'en vertu de la loi, l'employeur doit avoir une politique pour traiter les plaintes de cette nature-là. Qui peuvent se faire, le traitement de la plainte peut se faire sur une base administrative, mais moi, je privilégie toujours une plainte logée à la CNESST, qui est un organisme public indépendant et qui va probablement prendre l'affaire plus au sérieux que l'employeur qui risque, dans certains cas, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais d'essayer de camoufler l'affaire plutôt.
Puis ça, tant ou si longtemps qu'on est sur le payroll, donc qu'on soit employé, simple employé, vice-président, qu'on soit, je ne sais pas moi, directeur adjoint et tout ça, on est toujours protégé contre le harcèlement au travail. Ça ne change pas, ça, tant ou si longtemps qu'on est payé par l'employeur.
Non, ça ne change pas. Et puis, depuis 2004, on a des recours. Le harcèlement est reconnu, défini dans les lois. C'est beaucoup plus facile de porter plainte. Mais comme je te le dis, avant de porter plainte, assurez-vous d'avoir en votre possession le journal de bord. Telle date s'est passée telle affaire, telle date s'est passée telle affaire. Si vous avez des courriels, imprimez-les. Même si c'est des courriels qui sont dans votre ordinateur professionnel, parce que j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps où la personne est venue me voir pour du harcèlement, mais elle avait quitté ses fonctions et l'ordinateur était resté chez l'employeur. Il appartient à l'employeur. Elle n'avait pas fait sortir les courriels. Alors, ça devient compliqué à travailler parce que ça veut dire que l'employeur qui devient l'adversaire dans ces causes-là, parce que lui, il dit qu'il n'a pas d'harcèlement, mais il contrôle la totalité des équipements. Et on n'a pas les dates, on n'a pas les mentions, on n'a pas les termes utilisés. Alors, avant de quitter le lieu de travail, ramasser les courriels compromettants, les documents, les photos, les audios, ramasser tout ça pour pouvoir faire votre preuve si vous avez l'intention de poursuivre ou de porter plainte contre l'employeur pour du harcèlement psychologique.
Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je rappelle qu'on est avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca, bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause, puis on revient. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Avez-vous eu le temps de vous reposer un peu? Parce que vous avez des heures endiablées à chaque semaine.
Ah, c'est pas pire, pas pire. Les fins de semaine, on prend quand même le temps de respirer et de préparer la semaine qui s'en vient. Non, non, mais écoute, c'est de plus en plus intéressant à l'extérieur. Il faut sortir, il fait beau, là, puis on nous annonce un congé de Pâques sous le soleil, alors ça va être le temps d'aller chercher de l'énergie la semaine prochaine.
Maître Bellemare, dans les dossiers qu'on voulait aborder ce soir, on parle du dossier de Camille Mercier, qui a été victime d'un accident de travail, lui, en 2015. Cet homme-là est invalide, il est pauvre, et là, en plus, ben, on lui annonce que c'est la fin de ses prestations de la CNSST. Les prestations, ça dure combien de temps, ça, quand on est invalide?
Bien, le CNSST, ça arrête à 68 ans, mais ça diminue à partir de 65 ans. Alors, si vous êtes blessé au travail, vous êtes inapte à tout emploi, vous avez 61 ans ou 51 ans, à 65 ans, ça baisse de 25 % par année, parce que 68, il n'y en reste plus. Ce qui met plusieurs accidentés du travail dans une position insoutenable, parce que 68 ans, là, avec l'espérance de vie qui allonge tout le temps, là, le médecin va toujours trouver une petite pilule pour te prolonger. Là. Les gens vivent de plus en plus vieux. Alors, imagine-toi si à 68 ans, la CNSST arrête de te payer un remplacement de revenus, même si tu peux prouver que tu aurais travaillé jusqu'à 75 ans, tu ne peux plus travailler, tu as perdu ta capacité en lien avec un accident, mais on ne paye aucun remplacement de revenus. C'est parfaitement injuste, d'autant plus que en juillet 2022, le gouvernement de la CAQ a modifié la loi sur l'assurance automobile pour prolonger certaines prestations des accidentés de la route à vie. Alors là, il y a beaucoup de sentiments d'injustice chez les victimes d'accidents de travail parce qu'ils se disent « Comment ça se fait que mon voisin, qui lui, a subi le même genre de blessure sur la route alors que moi, c'est au travail, comment ça se fait que lui est payé jusqu'à son décès et moi, je ne le serai pas. À 68 ans, vous allez me couper. » Alors l'histoire de cet homme-là, c'est tout à fait pathétique. Monsieur Mercier, c'est un homme de la Côte-Nord. Et la semaine dernière, Radio-Canada m'a contacté pour voir comment ça se fait qu'on met fin aux prestations parce que lui, il va perdre sa maison vraisemblablement. Là. Parce que ce qui va te rester à 68 ans, si tu n'as plus de CNSST, tu n'as plus ton remplacement de revenus, c'est Retraite Québec et la pension fédérale. Mais Retraite Québec, si tu n'as pas travaillé, si tu as été blessé à 51 ans, tu as été sa CNSST pendant une quinzaine d'années, et t'es coupé complètement, ben tes prestations de Retraite Québec sont diminuées, là, parce que t'as contribué moins au régime. Alors, les salaires qui auraient augmenté puis que t'aurais pu avoir à l'âge de 64 ans pour augmenter tes contributions à Retraite Québec pour avoir une meilleure pension, ben ils sont pas rentrés dans l'intervalle, ce qui fait que ta pension de vieillesse va être moindre. Alors, c'est une double injustice, et je pense que ce qu'il faudrait, c'est simplement au moins modifier la loi pour faire en sorte que l'accidenté soit payé pour au moins la période où il aurait travaillé, quitte à mettre sur le dos du travailleur l'obligation de prouver qu'il aurait travaillé. Tu sais, s'il dit « Moi, mon plan, c'était ça, fait témoigner son épouse, fait témoigner son ancien employeur, mon plan, ça aurait été de travailler jusqu'à 70 ans, 72 ans, au moins qu'on le paye plus longtemps. » Parce que je vais te dire qu'à partir de 65 ans, quand ça commence à baisser, c'est pas facile, d'autant plus que les accidentés ont des dépenses plus importantes. Hein. Et sur la Côte-Nord, là, des orthopédistes et des neurologues, il n'y en a pas tout le coin de rue. Là.
Ah, au-delà
ils sont obligés de venir à Québec.
Ouais. Puis il y, y a ça, mais il y a aussi les dépenses les dépenses courantes que lui n'a pas nécessairement le choix. Il y a une maison, donc faire le ménage de sa maison, après ça, le déneigement, la tondeuse et tout ça, c'est des coûts supplémentaires que nous autres, on pense pas nécessairement quand on regarde son dossier. Parce que, tu sais, moi, je regarde le salaire qu'on lui verse, qu'on lui versait, en fait, c'était 2000 $ par mois par la CNSST. La CNSST, c'est pas si pire que ça, mais quand tu as une maison, quand il faut que tu payes pour le déneigement, quand il faut que tu payes pour le gazon, quand il faut que tu payes pour le ménage parce que tu n'es pas capable de le faire, hey, c'est des coûts supplémentaires. Puis le 2000, ils font, là.
Oui, puis dans la loi sur les accidents du travail, depuis 1985, il y a une disposition qui permet d'être remboursé à la hauteur de 3 500 $ par année pour les dépenses extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la neige, le gazon, les clôtures, les branches qui traînent, les petits radoux, les menus travaux, les clôtures, les abris tempo, ça rentre là-dedans. Mais 3 500, c'est vite monté. Quand tu as un terrain de 20 000 pieds, là,
ouais. C'est
vite arrivé. Et sais-tu ce qui se passe, Yannick? C'est que la CNSST demande d'avoir des soumissions parce que là, le prix est le plus bas. Fait qu'ils disent à la chose qui reste à Haute-Rive là, ou à Roberval, là, à tel accidenté, envoyez-moi des soumissions. Mais le problème, c'est que des soumissions, les gens ont de la misère à en trouver souvent. Et c'est qui fait qui va monter un abri tempo, tu penses, là? C'est souvent des gens qui font ça au noir.
Ben
des
oui.
Gens qui sont sur l'aide sociale, sur le chômage, qui ne veulent pas déclarer rien, fait qu'ils ne donnent pas de facture. Ce qui fait que les accidentés ont beaucoup de difficultés à obtenir des gens qui vont aller les soutenir pour faire ces menus travaux-là. Et la CNSST ne paiera pas. On va dire, oui, mais si c'est du noir, on n'a pas d'affaire à encourager ça. Je comprends. Mais quand tu n'es pas capable de faire ton gazon, puis c'est le petit gars d'à côté qui va venir faire ton gazon, ben lui, peut-être qu'il veut te payer en argent, puis il ne veut pas que ça soit déclaré. Pourquoi? Parce qu'il y a des prêts bourses, parce qu'il ne veut pas avoir de revenus importants. L'autre est en chômage, il ne veut pas que ça soit déclaré. Alors, concrètement, ce que ça représente, c'est une difficulté dans bien des cas pour plusieurs accidentés d'obtenir des remboursements de ces frais-là à cause que la main-d'œuvre qui pourrait les aider à faire ce travail-là n'est pas disposée à le faire ou n'est pas disposée à le faire dans les conditions requises par la CNSST. Fait qu'ils sauvent des millions avec ça.
Bon, là, on a parlé des accidents de travail. Mettons que c'est un accident d'auto. Y a-t-il des choses qui ne sont pas nécessairement couvertes par le régime public d'assurance automobile?
Oui, mais c'est ça. C'est qu'il y a une loi sur l'assurance automobile qui permet d'indemniser les accidentés en autant qu'une automobile est impliquée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si tu te promènes avec un 4-roues et que tu traverses l'autoroute 40 avec ton 4-roues puis tu fais un embardé parce que tu vas trop vite, même si tu es plaqué, tu ne seras pas indemnisé parce que c'est pas un véhicule qui est destiné à circuler sur un chemin public. Il peut le faire pour faire une traversée occasionnelle, mais il ne peut pas faire Québec-Montréal avec son 4-roues. Alors, c'est exclu. Par contre, si un automobile en bonne et due forme, 4-roues, un char régulier ou une moto ou un pick-up qui entre en collision avec le 4-roues, à ce moment-là, c'est un accident d'auto. Mais il faut qu'il y ait une automobile impliquée. Même chose pour les motocross, même chose pour les motoneiges. Et j'ai eu un cas la semaine dernière d'une femme qui a été victime d'un accident de 4-roues. La SAC ne paye pas pour les accidents de 4-roues sur les chantiers de 4-roues, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un recours en justice contre la personne qui t'a blessé sur le 4-roues. Fait que si tu prends place sur un 4-roues et que le conducteur, tout est passager, puis le conducteur fait le fou, puis qu'il pogne une branche, un arbre, il va trop vite, il fait le câble, il veut montrer qu'il est bon, puis un accident, tu as un recours contre la personne qui conduit le 4-roues. C'est pas parce que la SAC ne paye pas qu'il n'y a pas de recours. Au contraire, si la SAC ne paye pas, c'est que la loi sur l'assurance automobile ne s'applique pas, mais le droit civil traditionnel qui veut que tu répares le dommage que tu as causé s'applique. Puis donc, tu as un recours dans les 3 ans de l'accident contre une personne qui aurait causé le dommage. Mais des fois, il n'y en a pas de faute. Ou des fois, le 4-roues, écoute, le 4-roues, tu n'es pas dans ton salon. Tu es sur des terrains raboteux, vaseux. T'es en pleine forêt, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des roches, il y a des branches. Puis t'assumes un certain risque quand tu te promènes en 4-roues, que tu sois conducteur ou passager. Et t'as pas toujours une possibilité d'obtenir gain de cause devant un tribunal. Alors l'avocat dans ce cas-là doit regarder s'il y a une faute ou pas, pour voir s'il y a une cause, parce que pour pouvoir poursuivre, il faut prouver la faute, la responsabilité. la négligence ou l'insouciance d'une personne.
Okay.
Ça peut être dans l'entretien du sentier, ça
ouais.
peut être
mais
la personne qui conduit le véhicule.
Sinon, aussi. C'est des assurances personnelles qui vont couvrir notre accident de quatre roues?
C'est des assurances personnelles ou l'assurance de la personne qui a blessé. Mais c'est sûr que si tu as un quatre roues ou un trois roues ou un motocross, assure-toi. Assure-toi comme il faut. Attends-toi pas à ce que la SAC te paye si tu es blessé, parce que normalement, tu ne seras pas indemnisé par la SAC si tu te blesses au volant de ce type de véhicule-là. À moins, comme je le dis, que tu aies la chance, entre guillemets, d'être frappé par un char en bonne et due forme. Un tracteur de ferme, c'est la même chose. Tracteur de ferme, tu t'en vas avec ton tracteur, puis tu t'en vas dans le bois ou faire un chemin, quelque chose. Tu te blesses, tu renverses avec ton tracteur, tu ne seras pas indemnisé. Par contre, si le tracteur entre en conflit avec un véhicule automobile, en collision avec un véhicule automobile, à ce moment-là, tu vas être indemnisé. Mais les risques sont quand même faibles que ton tracteur de ferme frappe un pick-up dans le parking de ta ferme, là. Mais j'ai déjà eu un cas où c'est arrivé, où il y avait un véhicule qui circulait rapidement sur un chemin de terre, puis le tracteur a voulu l'éviter. Et à ce moment-là, il y a eu... En autant que c'est un véhicule automobile qui a causé l'accident, t'es admissible. Les animaux, c'est la même chose. J'ai obtenu gain de cause il n'y a pas longtemps dans le cas d'un monsieur qui se promenait avec son cheval sur un chemin public, aux abords d'un chemin public, puis est arrivé un char à une vitesse inouïe, trois fois la vitesse permise sur cette route-là, roulait à tombeau ouvert, et le cheval a pris peur, et il est parti en fou. Et mon client qui prenait place sur le cheval est tombé par terre et s'est blessé. Alors, on a réussi à prouver que le cheval avait eu une réaction de peur par rapport au véhicule qui est arrivé de façon tout à fait inattendue à haute vitesse. Et la SAC a accepté de payer mon client pour les blessures survenues, même s'il n'a pas été frappé directement par l'automobile.
Okay.
Alors, en autant qu'un véhicule qui a causé l'accident, tu vas être admissible aux indemnités de la SAC si tu es blessé.
Okay. Maître Bellemare, répondez à ma question. Là. Okay. Si je plaque ma motoneige, si je plaque ma remorque, si je plaque mon VTT à la Société de l'assurance automobile du Québec, pourquoi je ne suis pas assuré?
Parce qu'ils mettent ça dans leur poche puis ils sacent de nous autres. C'est un enrichissement sans cause. Ils vont chercher des frais pour immatriculer des véhicules, mais si, tu n'es pas protégé si jamais tu te blesses au volant de ce véhicule-là. C'est du vol pur et simple, parce que les gens croient à tort qu'en payant une plaque sur un skidoo, parce que la SAC existe une plaque sur le skidoo, pourquoi ils plaquent les skidoo alors que tu n'es pas protégé? Alors, ils mettent ça dans leur poche, puis il n'y a pas de contrepartie. Et c'est dommage, parce que pire encore, ça envoie un faux message aux motocyclistes puis aux motoneigistes qui se disent « Bien, je suis plaqué, donc je suis protégé par la SAC si jamais je me blesse. »
Exact.
Et c'est grave, parce que c'est après coup que les gens apprennent qu'ils ne sont pas couverts au moment où ils ont subi un accident avec des blessures super importantes. Dans certains cas, il y a des décès. Et les gens sont tout surpris de voir que la SAC refuse la réclamation. Alors, c'est pas très connu, mais c'est effectivement, chaque année, il y a des drames comme ça qui surviennent, de gens qui sont blessés et ayant cru à tort être protégés par la SAC, ils ne sont pas, puis leur réclamation est refusée.
Avez-vous,
on ne peut rien faire.
Avez-vous l'impression qu'un jour, ça va changer, ça?
Bien, je sais pas, mais la SAC, évidemment, fait de la publicité sur son système en disant « On est bon, on est fin, on paye tout le monde, c'est pas compliqué, envoyez-nous une réclamation, puis tu as quasiment l'impression que le chèque arrive avant que tu réclames, là, tellement ils sont efficaces. » Qui disent, dans les faits, c'est pas ça pantoute, tous les accidentés qui ont eu affaire avec la SAC le savent, là, c'est compliqué puis c'est long, puis ils font tout pas payer, mais il reste que la SAC a pas tendance à vanter les lacunes de son système, puis c'est pas demain la veille que la SAC va faire une publicité à TV pour dire « Écoutez, les motoneigistes, vous êtes pas protégés si vous vous blessez, puis les quatre roues non plus. » Parce que s'ils font ça, le monde va se dire « C'est quoi ce système-là? Ils me demandent de l'argent puis ils me protègent pas. » Alors, ils n'en parlent pas, puis ils gardent ça pour eux, puis ils laissent les gens dans l'ignorance avec les conséquences malheureuses que ça peut avoir dans le bien.
On termine avec la nouvelle loi sur l'habitation de la fameuse ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui est une ancienne propriétaire d'immeubles à logement. Là. Qu'est-ce que ça va changer pour les locataires? Ça va être quoi les conséquences pour les locataires?
Bien, c'est qu'on a permis, permis une cession de bail qui est plus... les propriétaires vont pouvoir maintenant refuser des cessions de bail. Alors qu'avant, ça se faisait beaucoup plus facilement. Ça veut dire que si tu quittais ton logement, tu pouvais céder ton bail à quelqu'un de ton choix qui en assumait la responsabilité. Puis c'était relativement facile. Alors avec la loi que la CAQ a fait adopter au mois de février, les propriétaires peuvent refuser, sauf dans des cas très exceptionnels, une cession de bail. Ça veut dire que les gens sont poignés pour ne pas pouvoir céder leur bail avant que le bail se termine. Et le risque que ça peut comporter, c'est que les propriétaires peuvent décider de libérer un locataire pendant le bail, mais choisir le nouveau locataire qui va avoir les moyens. Alors, ce que craignent certains groupes de locataires, et je sais que la Québec solidaire en a fait chez Sougras, là, c'est qu'eux autres, ils disent, les propriétaires vont profiter de ça pour se débarrasser des locataires qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis relouer à d'autres qui en ont plus les moyens. C'est sûr que c'est un risque, mais en même temps, quand tu arrives dans un nouveau logement, le propriétaire doit te donner le dernier loyer payé pour te permettre de contester une augmentation qui serait déraisonnable, qui serait au-delà du 4 % qui est autorisé actuellement par le tribunal administratif du logement. Alors, c'est sûr qu'il y a des propriétaires, dans tous les cas, qui vont peut-être en abuser, refuser la cession de bail pour pouvoir récupérer le logement et le louer plus cher compte tenu qu'il y a une pénurie. Mais si vous êtes victime de ce genre de manœuvre-là et que vous accédez à un logement puis vous vous apercevez que l'ancien locataire a payé beaucoup moins de loyer que vous, vous avez le droit de vous adresser au tribunal administratif et de demander un correctif. Mais c'est sûr que ça donne plus, cette loi-là que la CAQ a fait adopter, donne davantage de liberté aux propriétaires qui pourraient refuser les cessions de bail. Et ça vient donner un petit peu plus de pouvoir aux propriétaires, effectivement.
Maître Bellemare de chez bellemareavocat.ca, on vous souhaite de passer un excellent lundi soir et on se rejoint la semaine prochaine, même heure, même poste.
Oui, parfait. Bonne semaine.
Bonne semaine. Quant à nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de boulevard et je vous reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci.